Bon, merci à Anne de ce témoignage très précis de ce que c'est finalement la psychanalyse, la position de l'analyste avec des cures dites cures d'enfants. Bon, on en parlera plus tard. Et je passe la parole à Claire Parada, qui est analyste à Paris.
Responsable, oui, mais jusqu'où? C'est comme ça que j'ai titré mon
titre. Ah oui, c'est vrai.
C'était le titre. Donc, alors, depuis la découverte de l'inconscient par Freud, la question de la responsabilité du sujet a dû se reposer autrement. Puisque la notion même d'inconscient suppose que le sujet est mu par des mouvements qu'il ignore. De quoi sommes-nous responsables alors? Sommes-nous responsables de notre inconscient? Et en quoi? Toujours est-il que cette découverte a remis en cause la conception classique de la responsabilité qui prévalait jusque-là. Conception selon laquelle tout adulte pouvait et devait répondre pleinement et entièrement de ses actes et de ses agissements, à l'exception des aliénés, des idiots et des enfants, comme nous l'a exposé le docteur Jean-Charles Pascal ici, expert psychiatre auprès des tribunaux. Au fil des époques, ce qui est recherché donc, pour déclarer quelqu'un responsable d'un point de vue pénal est affaire de libre arbitre, de lucidité ou démence, de volonté et intentionnalité, jusqu'à aujourd'hui où dans le code pénal, il est question de discernement, alterné ou aboli. Chacun est donc censé savoir ce qu'il fait et pouvoir en répondre, l'exception étant située du côté de la pathologie. Bref, la responsabilité a toujours été intimement liée aux capacités de jugement intellectuel, autrement dit, à une organisation des idées bien ordonnée qui éclaire le sujet dans sa conduite, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Avec la découverte de l'inconscient, Freud revient sur cette idée que ce qui oriente le sujet dans sa conduite et ses actions est à situer uniquement au niveau des capacités intellectuelles, des capacités de jugement, comme essaie de l'établir Kant. Une part, et une part importante de ce qui motive le sujet dans ses actions, échappe à la conscience. C'est ce qu'il observe d'abord dans les symptômes des premiers cas d'hystérique. Mais là, on reste encore dans le cas de la pathologie. Il va alors l'étendre au lapsus et aux actes manqués. Point de jugement éclairé dans ses actions, mais un surgissement de quelque chose pouvant même être en contradiction avec la morale de l'auteur. Là aussi, on pourrait dire qu'il s'agit d'un accident, d'un achoppement dans le sujet, quelque chose du côté de l'anomalie. Sauf que Freud y lit bien autre chose au-delà. Il y lit un désir, et un désir qui vient du sujet, donc. En partant de la pathologie, il généralise le processus à tous, tous mus par notre inconscient. Toutes nos actions, tous nos choix, professionnels comme amoureux, sont motivés par quelque chose qui échappe au jugement et à la raison, et qui sont guidés par la pulsion, le fantasme et les premières fixations infantiles dont a priori nous ne savons rien. Alors, cela fait-il de l'homme un irresponsable généralisé pour autant? Ce n'est pourtant pas ce que conclut Freud. En effet, dans le même temps où il ébranle le socle du jugement éclairé, où il le remet en cause par la révélation qu'existent en nous des mouvements, des éléments insus, donc incontrôlables, qui guident nos actions, il n'exonère pas pour autant l'homme de toute responsabilité. Car ce qui travaille en sous-main dans l'inconscient, ce n'est pas non plus n'importe quoi, sans queue ni tête, partant dans tous les sens. Il s'agit d'un système organisé qui a ses propres lois, même si elles diffèrent des lois du système conscient. Ce qu'il découvre être agissant dans les symptômes, les actes manqués, les lapsus, et qui échappe à la compréhension du sujet qui en est l'auteur, c'est un désir. Un désir inconscient peut-être, mais qui n'en est pas moins un désir du sujet. Un désir qui peut entrer en contradiction avec les idéaux moraux du sujet, idéaux dictés par la société, nous dit-il dans Malaise dans la civilisation, mais qui ne le constitue pas moins pour autant. Et c'est ce désir inconscient et indestructible, précise-t-il, présent depuis toujours, qui l'invite à faire venir au savoir par la méthode de l'association libre et du déchiffrement qu'il a inventé. Afin que justement, je cite la phrase bien connue de tous, « Vous, es war, soll ich werden », écrit-il dans la 31e des nouvelles conférences. C'est-à-dire que là où était le « ça », le « je », J-E, viennent à être. Autrement dit, que de ce qui constitue son inconscient, le sujet puisse s'en faire une conduite, pour reprendre l'expression de Lacan, nous y reviendrons plus tard. C'est précisément dans cet impératif freudien que Lacan situe le renouvellement que Freud apporte à la question de l'éthique. L'éthique qui serait propre au discours analytique, chaque discours comportant sa propre éthique, comme nous l'a clairement déplié Sol Apparicio lors d'une séance, la séance de janvier. Lacan démontre tout au long du séminaire 7 sur l'éthique en quoi une éthique nouvelle est apportée par Freud dans cette phrase, en déplaçant la question du bien universel moral et du service des biens à la question du désir. Ce « je » qui doit advenir là où c'était, est bien ce « je » qui s'interroge sur ce qu'il veut au regard de son expérience morbide, nous dit Lacan. C'est à travers ses symptômes, ses angoisses et ses inhibitions. C'est un sujet divisé par ce qui lui arrive de paradoxal, divisé par son inconscient donc. C'est un « je » en proie au désir, au paradoxe du désir, car Freud, déjà en son temps, nous précise bien que le sujet n'a pas de rapport univoque avec son désir. Il le rejette, le censure, n'en veut pas. Dans La science et la vérité, Lacan en fait une nouvelle traduction. Là où c'était, là comme sujet, dois-je advenir. C'est-à-dire, là où est l'objet A, le sujet divisé advient. Il s'agit de faire advenir le sujet divisé par l'objet A. À l'époque du séminaire 7, Lacan nous avait montré que ce qui guide l'action a toujours à voir avec l'objet perdu du principe de plaisir, qu'il s'agit de retrouver. Il ne s'agit pas de retrouver l'objet lui-même, bien sûr, Das Ding, comme il l'appelle à cette époque, mais de retrouver cette première expérience de jouissance qui s'est inscrite et qui pousse à la répétition. C'est ce qui donne à Das Ding sa dimension de réel. De réel comme ce qui revient toujours à la même place, précise Lacan. Il s'agit de retrouver les mêmes coordonnées de jouissance, soit comme aversion et déplaisir, soit comme trop de plaisir, comme Freud nous a appris à le reconnaître, respectivement chez l'hystérique et l'obsessionnel. C'est sur cet objet que se réglera le principe de plaisir, et ce qui donnera une orientation à l'action dans la direction de la recherche d'un bien. Das Ding, c'est ce qui organise la conduite, mais à condition de ne pas trop s'en approcher, imposant ses détours. Dans cet impératif éthique freudien, il y a bien la recherche d'une vérité, mais de la vérité du désir, et non celle d'un souverain bien ou d'une loi supérieure, celle d'un Wunsch impérieux qui dicte l'action. Il s'agit là d'une vérité singulière pour chacun, et non pas universelle, puisqu'elle s'origine d'expériences de plaisir ou de déplaisir. Recherche de la trace de jouissance liée à l'objet perdu, et qui a fait événement de corps, ce qui inscrit donc cette vérité dans la dimension de la contingence de la rencontre. Avec ce renouvellement de l'éthique apporté par Freud, la pensée qui guide l'action n'est plus du côté de la conscience, mais dans la logique du signifiant, qui régit la pulsion et le fantasme. ce qui fait un sort à la pensée morale. Cela veut-il dire pour autant qu'une analyse pousserait vers une abolition de la morale au profit des instincts ? À cela, Lacan répond que, je cite, « l'idée peut venir à première inspection qu'elle, la psychanalyse, nous propose comme mesure de notre action un retour à nos instincts. C'est un moment déjà depuis longtemps périmé. » Et il ajoute plus loin, personne ne songe à craindre un ravalement moral de cette espèce dans la suite de l'analyse. Car la psychanalyse s'intéresse à la question du sens de l'action. L'originalité de Freud est de dire que ce sens caché, une fois révélé, ne va pas vers une réconciliation. Il existe toujours un rapport conflictuel avec le désir. Et le sujet reste divisé dans son rapport au désir. Pas d'harmonisation ni de réconciliation à attendre d'une analyse, mais plutôt une prise de savoir sur, je cite, « le rapport de l'action au désir qui l'habite », nous dit Lacan. D'où son fameux, je cite, « avez-vous agi conformément au désir qui vous habite ?» Nous sommes bien loin, on le voit, du non moins fameux slogan « jouir sans entrave » pour faire référence à une époque évoquée par Martine la dernière fois. Il ne s'agit pas de réaliser ses désirs, plus ou moins conscients, représentables, nommables, mais de ne pas céder sur son désir, sur la structure du désir qui se réfère à Dasein justement. Cet objet sans représentation, avec laquelle le sujet entretient des rapports toujours complexes, puisqu'il est par définition insaisissable. Dans le séminaire 10, Lacan développera, grâce à l'élaboration de l'objet A qui l'amène, la fonction qu'il occupe de cause du désir, donc placée en avant du désir et non pas après. Ce n'est pas l'objet après quoi le sujet court, mais cette part chue dans l'entrée dans le langage, qui le rend toujours manquant et donc désirant. Ne pas céder sur son désir pourrait alors être entendu comme prendre en compte cette part chue, cet objet perdu, cette place vide, ce manque structural qui est le moteur du désir. De ça, le sujet en est responsable, de sa position par rapport à son désir dans sa structure foncière de rapport au manque. C'est ce que Lacan, dans La science et la vérité en 65, reprend quand il dit que, je cite, et c'est en exergue du titre de notre séminaire, « de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables ». Mais que veut-il dire par notre position de sujet ? Lacan précise alors quel est le sujet qui intéresse la psychanalyse. Ce n'est surtout pas un sujet incarné. Il nous dit, et il le répétera à plusieurs reprises dans son enseignement, que ce serait une erreur de l'incarner dans l'homme. Car c'est précisément ce qui fait tomber dans les illusions de l'archaïque, de l'originel, dans la personne de l'enfant. Le saisir dans une quelconque évolution, dans une diachronie, est ce qui concerne l'homme comme objet de la science, objet de la psychologie avec ses étapes de développement, où il serait donc jugé plus ou moins responsable selon les étapes de sa vie, suivant une logique de maturation et d'apprentissage. On voit bien dans l'exposé de Anne Castelbouc, qui concerne donc des enfants qu'elle a reçus et qui reviennent ensuite faire une demande d'analyse, une fois adulte, que ce qui est visé dans le travail analytique, c'est la position du sujet dans sa demande, quel que soit son âge. Si Lacan y revient à plusieurs reprises dans son enseignement, c'est peut-être que cette pensée était assez présente, notamment à travers les travaux de Piaget et les développements de la psychologie, mais peut-être aussi pour bien marquer la différence avec l'objet de la psychanalyse qui s'intéresse, elle, à la structure du sujet. Ce dont il s'agit, donc, c'est la structure du sujet, quel que soit son âge. Le sujet comme effet du langage, toujours représenté par un signifiant, et qui apparaît dans le réel comme intention, nous dit Lacan dans le séminaire 3, comme ce qui est capable de manier les signifiants à des fins signifiantes et non pas significatives. C'est-à-dire une utilisation du signifiant pour tromper, non pour signifier. Puisque le signifiant en lui-même est asémantique, il ne signifie rien en lui-même, on peut lui donner des significations diverses. C'est ce sujet qui n'apparaît que parce qu'un signifiant est sauté dans la chaîne et de ce fait intriqué à l'existence même de l'inconscient. Il naît divisé en tant qu'il parle. Dans la science et la vérité, donc il revient dessus en disant que le sujet dont il s'agit, c'est le sujet du cogito cartésien qui, après avoir rejeté tout le savoir, constate qu'il ne lui reste qu'une seule certitude, celle de son être. Son être à partir de quoi il peut reconstituer du savoir. Dans le « je pense donc je suis » de Descartes, la seule certitude de l'être réside dans le fait que je suis en train de penser. Ce qui, je cite, fonde pour le sujet un certain amarrage dans l'être, pour reprendre l'expression de Lacan. Un être sans prédicat, donc, et ce, par le signifiant, tout en restant séparé de son être. Dans la troisième, Lacan revient sur le cogito, en en donnant une version différente, et qu'il énonce ainsi, « Je pense, donc se jouit ». Il semble que dans cette version, le sujet n'est plus amarré à l'être par le signifiant, l'être qu'il dit même fort clos, mais à la jouissance. Il pose là le sujet, toujours divisé, mais séparé de sa jouissance. Ce qui amène d'autres interrogations par rapport à la question de la responsabilité, car la responsabilité au regard de son désir inconscient, avec sa formule « ne pas céder sur son désir » du séminaire 7, on passerait à la responsabilité au regard de la jouissance et aux éléments de la langue, ce qui semble à première vue plus complexe, nous y reviendrons. Dans le texte de 65, donc « La science et la vérité », Lacan reprend la question moderne que Descartes a introduite avec son cogito et qui pourrait se formuler ainsi « Quel rapport le sujet entretient-il avec le savoir ?» et pour ce qui nous intéresse, le savoir inconscient. Ce qui l'amène à poser, suivant la Freud, un sujet divisé entre savoir et vérité. Que peut-il savoir de sa vérité, le sujet, de sa vérité inconsciente, de la vérité de son désir, de l'objet A qui le cause? Ce que le sujet en reçoit, il ne peut le recevoir que parce qu'elle parle, la vérité. C'est ce qu'il nous disait déjà en 55 dans la chose freudienne, sous la forme de, je cite, « Moi, la vérité, je parle ». Autre formule du « ça parle » freudien, qui insistait déjà sur le fait que ce qui provient de l'inconscient suit les lois du langage et ne s'attrape que par la parole. Elle parle dans les formations de l'inconscient, à l'insu du sujet. Le sujet n'en sait rien, tout en le laissant diviser de cet objet A qu'il ne peut se saisir dans le langage. C'est pourquoi la vérité ne peut être que midite. Il reste toujours de l'insu qui ne saurait être résorbé, mais la seule façon de l'attraper, c'est par le langage, de toute façon. Subsiste toujours une division entre vérité et savoir, un point de rupture entre les deux, pas de savoir exhaustif qui cernerait pleinement et complètement la vérité du sujet. Le sujet étant structurellement divisé entre savoir et vérité, la question de sa responsabilité devient particulièrement épineuse donc. Ce qu'il peut en savoir de sa vérité se déchiffre dans l'inconscient langage, jusqu'à un certain point. Car que peut-il savoir de l'objet A, qui guide, qui organise ses actions, comme nous l'avons vu précédemment ? Ce dont il est responsable est donc de sa position par rapport à sa vérité de sujet et ce qu'il veut en savoir. La question devient alors, que veut-il en savoir? C'est la différence que Lacan fera plus tard entre ignorance crasse et ignorance docte. L'ignorance crasse étant du côté de celui qui ne veut rien en savoir. Cette formule marque presque une position active du sujet, ne rien vouloir savoir. une position active, même si elle est plutôt de recul, en fait. Et Lacan de fustiger ce qu'il appelle la belle âme, dans la science et la vérité, l'erreur de bonne foi, la malhonnêteté de vouloir se cacher derrière un « je ne savais pas », à quoi Lacan répondra 2 ans plus tard par Silicette, qui veut dire « tu peux savoir », le titre d'une revue du Chartreux. Ce rien vouloir savoir est d'ailleurs lié à l'horreur de savoir qui concerne la castration et le pas de rapport sexuel, comme le dira Lacan dans la note italienne. L'ignorance docte, quant à elle, concerne justement l'impossible. Dans un premier temps, l'impossible de tout savoir de l'inconscient, qui malgré le déchiffrage reste insu pour une part, et ce du fait du refoulement originaire, dit Lacan suivant Freud. Puis viendront les différentes formes de l'impossible. L'impossible à dire, à tout dire, le signifiant ne parvenant pas à épuiser le réel, et notamment le réel de la jouissance. L'impossible à écrire la femme, un signifiant manque dans l'autre, ce qu'il écrit S de grand tabaret. L'impossible à écrire le rapport sexuel. Lacan insiste sur le fait que s'il y a quelque chose que l'analyste a à savoir, c'est bien ces dimensions de l'impossible. Pas d'échappatoire pour le psychanalyste qui a à en savoir quelque chose. Je cite, « La position du psychanalyste ne laisse pas d'échappatoire puisqu'elle exclut la tendresse de la belle âme. » Il y revient en 72 dans l'étourdi, il y reviendra aussi en 73 dans la note italienne. Donc il y revient en 72 dans l'étourdi quand il dit « De tout cela, il saura s'en faire une conduite. Il y en a plus d'une, même d'état, à convenir aux 3 dimensions, avec un tiré entre 10 dimensions, à convenir aux 3 dimensions de l'impossible, telles qu'elles se déploient dans le sexe, dans le sens et dans la signification. Ainsi, de ces 3 dimensions de l'impossible, c'est de ces 3 dimensions de l'impossible qu'il saura se faire une conduite. Si en effet, déjà depuis l'inconscient langage, mais de façon encore plus évidente avec l'inconscient réel, il ne s'agit pas de tout savoir à la fin d'une analyse, un savoir exhaustif sur l'inconscient est proprement impossible, il y a quand même quelque chose à savoir comme condition pour occuper la place de l'analyste. Ou bien un nouveau savoir qui doit advenir et qui concerne l'impossible, dit Lacan. C'est de sa position quant à ce savoir-là dont le sujet est responsable et dont il se fera une conduite pour occuper cette place. L'utilisation du verbe « faire » à la forme réflexive « se faire » ou « s'en faire » indique bien la responsabilité qui lui incombe. S'en faire une conduite, donc, une conduite fondée sur la logique de l'impossible, qui convienne à la logique de l'impossible. Pour autant, il s'emploie à préciser que des conduites, il y en a d'état. Il ne s'agit surtout pas de rentrer dans la bonne conduite, qui rabattrait sur un impératif moral, normatif, qui répondrait à un idéal. Pas de normes à la conduite de l'analyste, telle que le dicterait par exemple l'identification à l'analyste. Mais c'est d'avoir acquis ce savoir sur la logique de l'impossible dans sa cure qui permet à l'analyste de la tenir auprès de ses analysants. De ça aussi il est responsable. La responsabilité du sujet se situe donc dans ce qu'il veut en savoir, ce qu'il veut savoir de sa vérité, de son désir, de sa jouissance, de la logique de l'impossible, de ce qui le meut et de ce qui lui arrive. Il peut vouloir rester dans une position où l'autre, le grand autre, en est rendu responsable. Responsable dans son bonheur comme dans son malheur. C'est l'autre qui est censé en répondre. Comme ce qui se passe d'ailleurs dans la religion où la vérité comme cause est mise à la charge de Dieu, nous dit Lacan, dans la science et la vérité. Plus couramment, dans la clinique, ce que l'on observe concernant cette primauté donnée à l'autre, c'est de lui faire porter la faute à cet autre supposé tout jouisseur, de le faire consister en faisant consister le sens et ainsi donner du sens au réel. Le sujet peut alors rester dans une position de victime ou de révolte, suivant que l'autre est celui qui abuse ou bien qui lèse. Christine Angot, au micro de Guillaume Erner sur France Culture, faisait une différence intéressante, il me semble, entre avoir été victime et être une victime. C'est-à-dire entre avoir subi ou souffert de quelque chose qui a fait effraction pour le sujet, d'une part, et s'y identifier, d'autre part. C'est ce que lui inspirait une certaine méfiance par rapport au hashtag « balance ton porc » et autres hashtags. Car de ce trauma, disait-elle, chacun doit s'en débrouiller. Chacun a à s'en débrouiller seul, en définitive. Ce qui ne veut pas dire nécessairement sans l'aide d'autres. Mais chacun a à trouver sa propre solution singulière. Pas de solution pour tous, ou pour toutes, là, en l'occasion, dans le traitement de masse. On peut rajouter que cela dépendra de la réponse du sujet, de la réponse que le sujet pourra donner à cet avènement de réel. Peut-on dire alors que le sujet est responsable de ce qu'il fait, de ce qui lui arrive ? Responsable dans le sens de pouvoir en répondre. Et d'ailleurs, ne tente-t-il pas d'y répondre tout au long de son trajet analytique ? Ce dont le sujet serait responsable, c'est de comment il répond aux avènements du réel, qui ne manquent pas d'advenir du fait qu'il soit parlant. Car le réel qui intéresse la psychanalyse et que Lacan décline dans la troisième concerne les différentes formes de l'impossible, ce dont il a déjà été question plus haut, et le champ des jouissances que le signifiant marquant le corps produit. Il est responsable de comment il répond à cette malédiction qui marque le sexe du fait de l'absence du rapport sexuel, impossible à écrire. C'est-à-dire comment il y répond par son fantasme et ses symptômes. Il est responsable dans le sens où il est le seul à pouvoir en répondre. Répondre de sa solution singulière vis-à-vis de ce réel, personne d'autre que lui ne peut en répondre. Même pas l'autre, à qui pourtant il a longtemps imputé la faute de ses malheurs, de ses errances, de ses impuissances. C'est ce que Lacan amène, me semble-t-il, dans la leçon du 13 janvier 76 du symptôme, comme l'a cité Anne tout à l'heure, quand il dit, au gré, et je cite, « au gré de la pensée, il n'y a de responsabilité que sexuelle ». Que veut-il dire par là ? L'essence de la pensée, et donc de tout ce qui fait sens, s'insère dans la réalité sexuelle, comporte une référence à l'acte sexuel et à sa dimension opaque. La dimension opaque de l'acte sexuel lui vient du fait qu'il ne réalise pas pour autant le rapport. Entre autres. C'est en ça qu'il est une non-réponse, ou une réponse à côté par rapport au réel du sexe, de l'être parlant. La réponse à cet impossible est toujours à côté. Ce qui éclaire peut-être cette phrase qu'il prononce au début de cette même leçon, et je cite, « On n'est responsable que dans la mesure de son savoir-faire, c'est-à-dire de l'art, voire de l'artifice, nous dit-il, dont on est capable pour faire avec le réel, et notamment avec le réel du sexe. Chaque sujet n'est responsable que dans la mesure de l'artifice dont il dispose. L'artifice au sens d'un fer qui nous échappe, qui déborde la jouissance de l'esprit, pour répondre à cet impossible, toujours à côté, bien sûr. En effet, dans les dernières élaborations de Lacan, on remarque que si le sujet est toujours divisé entre vérité et savoir, c'est du savoir insu de l'inconscient réel que le sujet est séparé. C'est un savoir sans sujet qui travaille tout seul, constitué des éléments de la langue qui se sont déposés. la responsabilité du sujet devient donc de prendre la dimension de ce qui s'y jouit et du hors-sens qui le constitue. La vérité, elle, reste liée à l'inconscient langage qui parle à travers les rêves, les lapsus, les symptômes, toutes les formations de l'inconscient qui sont déchiffrables. Et elle s'articule dans le langage, dans les signifiants, toujours midite, bien sûr. Le tournant se situe autour du séminaire encore, où le signifiant se trouve alors placé du côté de la jouissance, ou plutôt jouissance, comme il écrit en deux mots. La vérité prend alors un autre statut et est qualifiée de menteuse, car propre à produire des fictions, ou plutôt des fictions avec un X, à travers les formations d'attention. Elle est donc menteuse du fait qu'elle parle, d'une part, mais aussi que ce qu'elle exprime dans ses constructions, ce qu'elle exprime, ce sont des constructions qui fixent le sujet au sens. Le sens que Lacan nous a appris à mettre du côté de l'imaginaire. Plus précisément, dans la troisième, il le place dans la ligne nulle entre l'imaginaire et le symbolique. La vérité comporte donc cette dimension de mirage qui appartient au sens et qui vient voiler le hors-sens du réel. La complexité de l'affaire réside dans le fait que de ce réel, on ne peut attraper quelque chose qu'à travers la vérité, justement. La position du sujet quant à ce qu'il a à savoir et dont il est responsable s'est légèrement déplacée de la vérité qui parle et qui peut se déchiffrer dans les formations de l'inconscient langage au savoir insu de l'inconscient réel. Mais alors, que peut-on en savoir, puisqu'il ne se déchiffre pas ? On pourrait répondre par un savoir sur l'impossible, d'une part, et d'autre part sur comment le sujet fait avec la jouissance, notamment la jouissance du symptôme, et avec le réel. C'est là que se situe ce que Colette Soler appelle l'efficace du sujet, dans son cours de 2015-2016 sur l'avènement du réel, de l'angoisse aux symptômes. Cela suppose que le sujet ait une certaine marge, puisse répondre, donner des réponses qui sont les siennes propres aux problèmes qu'il rencontre, et notamment à l'avènement du réel. Des réponses qu'il fabrique, nous dit-elle, comme dans la phobie, dans l'invention d'un signifiant comme solution au manque de signifiant de la castration maternelle, ou bien le fétiche, comme déplacement compensatoire de ce qui manque ailleurs. Et elle ajoute que l'éthique du sujet est en rapport avec l'efficace du sujet, qui implique que le parlant est lui-même générateur de signifiants. Et même s'il puise dans les signifiants qui étaient déjà là, il leur confère une fonction propre. Ou bien encore, il peut créer un signifiant ex nihilo. C'est ce qui fait évoluer la langue, dit-elle, ce qui fait qu'elle est vivante. Pour que cela devienne un signifiant du sujet, c'est que non seulement il produit une nouvelle signification, mais il y a une appropriation, un investissement qui le fait exister comme signifiant pour le sujet. Un investissement qui vient de nulle part, qui ne vient pas de l'autre, qui est de sa propre subjectivité. On pourrait en dire autant pour le fantasme, puisqu'il s'agit d'une construction du sujet qui a pour fonction de répondre au réel de l'impossible et de la jouissance. En effet, le fantasme, comme fiction du sujet, permet de faire suppléance à l'absence du rapport sexuel en le liant au partenaire selon un certain mode de jouissance auquel il donne un sens sexuel. Pour conclure, on peut dire que l'inconscient a introduit une nouveauté de taille dans la question de la responsabilité. Le sujet qui nous intéresse là est un sujet qui en est divisé. Alors, responsable, mais jusqu'où ? Il y a apparemment quelques variations selon les différents moments de l'enseignement de Lacan et là où il en est de l'élaboration de l'inconscient. On remarque notamment qu'il y a un glissement entre le texte de 65, de Science et de la vérité, et celui de 72, l'étourdi, quant à ce qu'il y a à savoir, puisqu'on passe de la vérité du sujet, soit l'inconscient langage déchiffrable, à la logique de l'impossible qui se déduit au cours d'une cure. Mais ce qui ne varie pas, c'est que le sujet est responsable de sa position quant au savoir, de ce qui le détermine. D'un savoir sur son désir et son fantasme, il ajoute un savoir sur l'impossible et la jouissance. C'est de son rapport à ce savoir dont il est responsable. En 76, il ajoute au savoir sur la logique de l'impossible le savoir-faire et d'une manière qui semble plutôt limitative, puisqu'il dit « le sujet n'est responsable que dans la mesure de son savoir-faire ». Un savoir-faire avec le réel, et notamment le réel du sexe, qui n'est pas sans renvoyer à l'efficacité du sujet et de comment il répond à ce qui lui vient du réel. De là, il est seul à pouvoir répondre. Alors, la question qui me vient concerne le rapport de ce savoir-faire avec le savoir acquis pendant la cure sur l'impossible et la jouissance. Est-ce que quand même, une cure n'aurait pas une certaine incidence sur ce savoir-faire ? Ce qui n'est pas sans faire écho à la question que Nadine Cordova nous amenait sur les conséquences d'une cure sur la vie. Voilà, qu'est-ce qu'une cure change dans la vie et la conduite d'un sujet ?